Allez, deux fois, ça, c'est pas vrai.
Chut. Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but.
Et troisième but.
Et encore un but.
Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute.
Pas grave, c'est un drapeau.
Ça y est, Chabot est parti. L'Express, le TGV est parti. Chabot, 9,58, record du monde.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors il se défonce car la ligne est encore loin.
Non, je lâche le jingle jusqu'au bout. Eh oui, 18h30. Dernier vendredi du mois, ils sont bien là, tous réunis, tels les alcooliques anonymes, mensuellement.
Sans l'alcool.
Bonjour, je m'appelle...
Gonzalo.
Ça va.
Bonjour Damienski.
Salut, bye bye, hello, hi.
Et Yo-Yo Man.
Bonjour, bonsoir.
Bonsoir, oui.
Ah, pas habitué à ces horaires-là.
Et puis, notre invité de ce jour, vous l'avez déjà entendu venir parler d'Atlé Cartier, de l'Hébroïcienne, du cross Alain Lavaux. C'est un fidèle squatteur de la matinale, maintenant, on va dire.
C'est quoi son surnom? C'est la sifflette, c'est ça, non?
ex-arbitre de son état, Florian Vidal. Bonjour.
Bonsoir tout le monde.
Comme à toutes les occasions de la tournée du patron, peut-être que Raoul arrivera.
Non, mais moi je peux pas faire une hebdo parce que j'ai de l'entraînement, donc je voudrais une mensuelle. Ce sera plus facile pour moi. J'imite quelqu'un.
Rappelez-vous au mois de juin. Et on retrouvera évidemment nos chroniques habituelles avec le billet d'humeur de l'ami Gonzalo. On parlera vraisemblablement de basket rapidement avec les derniers résultats, les dernières infos. On parlera de rugby, on ne parlera pas de top 14 et de Pro D2, mais on parlera de l'équipe de France qui va bientôt se lancer dans le tournoi Destination. Et on parlera surtout...
Le faire tout de suite.
Ouais, j'ai pas été sélectionné, je suis Montpellierain. Ouais.
Non, oui, mais tu n'es pas noir.
C'est vrai.
Eh ouais. Ah non.
Qu'est-ce que veut dire ça?
Ah, seul.
Ouais, Edra Ogo.
Voilà, le capitaine Montpellierin qui est capitaine de son équipe, qui a des performances plus que correctes et qui est un peu surpris et triste de ne pas être sélectionné. Et puis surtout, on aura nos deux grands débats de la soirée autour de la chute des Invincibles, les experts, les super-héros qui sont devenus. C'était quoi le titre de la une de l'équipe?
Les humains, non?
Les humains, simplement humains, quelque chose comme ça.
Oh,
je crois que Florian, tu pourras revenir un peu dessus. Tu as rencontré le vice-président de la Ligue professionnelle de handball.
Le président, ouais, monsieur Philippe Bernatsal.
Grand handballeur de son état.
Exactement, champion du monde de handball d'ailleurs.
Deux essais en finale de la Coupe du Monde.
Avec ses deux doigts de rugby, faut pas oublier.
Et puis on parlera évidemment de l'arbitrage. On va dire que c'est notre sujet favori après avoir reçu Johan Lobrega qui est numéro 1 des arbitres en Normandie de rugby et qui officie de temps en temps en top 14 ou en Coupe d'Europe.
C'est-à-dire 253e français.
Voilà. On parlera encore d'arbitrage, mais des critiques qu'ils subissent par rapport au corps,
au corps.
Dirigeants les entraîneurs. Voilà. Bon, on enchaîne de suite en musique.
Ouais, celle-là, elle est pour Bernardo, le pauvre. On pense bien à eux.
Enfin, et à la trompette et.
La trompette et Tite Edgar, Tite
Edgar. Et le Knut. Ouh, c'était quoi?
Rage Against the Machine.
Et ben maintenant.
On est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche.
This is bad country.
Décontracté du gland.
L'homme sage est celui qui connaît ses limites exactes.
Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà qui est dit, mais je suis pas prêt.
T'as envie de bander alors comme ça?
Ouais, mais je suis pas prêt. Donc vous attendez, il faut que j'arrive jusqu'à 18.
Mais je vais pas vous demander si vous avez été voir du sport, messieurs, autour de la table. Parce que je connais votre réponse. Personne autour de la table n'a été voir le VB.
Si,
mardi
on est
soir.
Deux.
Mais si.
Ouais,
les
moi,
deux concernés.
Je devais y aller.
Moi aussi.
Malheureusement.
Voilà. Allez.
Elles ont gagné.
Et elles ont gagné. Peut-être qu'on va y venir.
Moi aussi d'ailleurs.
Hein je crois.
Je voudrais juste vous dire, Brandon, que effectivement, je n'y ai pas été mardi soir puisque c'était mercredi soir.
Ah bah voilà.
Donc voilà, je me permets.
Mais tu n'y as pas été mercredi non plus.
Je vous dis juste
non, parce
que je n'y ai pas été mardi soir.
Je croyais que c'était mardi. C'était le seul mardi. T'as l'Omnisport tout seul.
Bon, pour en revenir au sujet, hein. Elles ont gagné, c'est bien là l'essentiel. Et je crois que justement, on va parler de la gagne.
Comme disait John Le Carré, rien de secret, rien ne se perd. Recyclage. Elle est pas mal, ça, là, quand même.
Elle est belle.
Alors, bien sûr, il s'agit... C'est un peu fort, ça. Il y a tout qui est fort ce soir.
Le tapis aussi, il y a
tout qui est fort ce soir. Bien sûr, il s'agit du programme de l'EVB écrit par un obscur plumitif. Mais voilà, il pourrait parfaitement coller à diverses disciplines et clubs que nous apprécions. Parce qu'au final, en sport, comme en toute chose, il est demandé du tatillonnage et un truc au fond de la tripe qui vous donne envie d'être le meilleur, meilleur que la veille et surtout meilleur que l'adversaire. Parfois d'ailleurs, j'ai un peu l'impression que le pro ou la pro, sous nos latitudes, oublie l'esprit qui l'animait quand il était gamin, par exemple Benjamin ou en minime. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, non? Quand on vieillit, on oublie tout ça.
Non, si, vrai,
non, ça revient en général.
Ça revient?
Bah oui, moi je suis beaucoup plus ancien, refont surface.
Alors laissez-moi égrainer ce que je sous-entends par victoire. Alors pour le volley hébroïcien, parce que là il s'agit de volley, c'est un sport qui évolue, je crois qu'on a, pareil, on a tendance à l'oublier, au firmament du sport français. Je crois que d'ailleurs qu'à Évreux, hormis avant-guerre, en basket et en rugby, quand je dis avant-guerre, c'est la deuxième. Il n'y a pas eu mieux. Et encore, non, en rugby, c'est avant la première, non?
Bah si, basket, proie, c'était
c'est juste après.
Début 2000.
Non.
C'est juste après.
La LM, 90.
Non, la LM n'a jamais fini cinquième.
Ah, pardon.
Son meilleur résultat, la LM, c'était dixième.
Ouais, 10 ou 12. Ouais.
Dixième.
La série rugby, c'était une finale du championnat de France.
Contre Bayonne.
Contre Bayonne en 1919.
Mais je crois qu'il y a eu un jeu.
Tu y étais, toi? T'es pas un peu comme Hervé Morin, toi?
McFly.
Oh, le Cuba.
Non, non, celle-là, je la valide.
Non, on dit McFly Morin. Ah, on m'appelle, mais je... Ah.
Vous pouvez parler?
Écoute, non.
Allô?
Mais bah, t'étais pas en train de parler de ta chronique? Et de dire ce qui s'était passé et machin. Je crois que tu disais qu'en fait, dans tous les sports, d'ailleurs, il y avait eu des choses...
Bah non, mais c'est ma fille qui m'appelle, je réponds, c'est vrai que c'est pas bien.
Papa, t'as la radio, papa.
V comme victoire. Donc après deux saisons en Liga F, deux participations en Challenge Cup, l'aventure est loin d'être finie. Mais pour continuer, il en faut une autre, et encore d'autres. I comme individualité. Un groupe est composé d'individualités aux caractères différents, mais ces êtres humains doivent avoir un projet commun, une ambition, une éthique pour parvenir à la réussite. C'est comme collectif. Un collectif doit être supérieur à la somme des individualités. Et par le passé, le VB l'a prouvé. Ensemble, on est plus fort. T comme travail. Le sport ou la pratique d'un instrument, par exemple le violoncelle, tout à fait par hasard, à niveau national ou international, demande les mêmes vertus. Et la base inaliénable demeure le travail. Sans travail, rien n'est possible. Surtout dans le monde professionnel. Même dans le travail pour nous de tous les jours d'ailleurs. Ah mon Brandon. Oh, comme oxygène. Depuis le début de saison, le VB évolue dans la zone rouge ou à proximité. Les hébroïciennes, on pourrait dire ça aussi, des amicalistes, hein, ont besoin de bol d'air victorieux. Vous n'avez pas remarqué que...
Elles l'ont prise.
Ouais, elles l'ont prise. Le basket aussi, c'est un peu difficile hein, cette année. Hein. I comme identité. Alors là, c'est pas une question de passeport, contrairement à ce que pourrait dire Monsieur Besson, un de nos amis qui nous écoute souvent. Tu n'as pas encore invité d'ailleurs.
J'ai perdu son numéro. Mon téléphone refuse de composer son numéro.
Le VV s'est construit sur l'identité défensive et le sacrifice. Une copine fait de bêtises, je plonge pour rattraper, je donne parfois tout et même un peu plus. R, comme le renouveau. Le club ivoirien est attaché à la formation. Ah, vous allez voir, il y a une petite finesse, qui arrive après. Il aime les paris et doit compter avec les réalités économiques du marché. Le VB 2010-2012 est aussi talentueux que jeune. La jeunesse doit prendre le pouvoir et maintenant affirmer son talent. Eux, comme étonnez-nous. Voilà ce qui était écrit sur un programme de l'EVB. Qu'est-ce que t'en penses, Florian?
Vous pouvez répéter la question.
Non. C'est joli, c'est beau, c'est. Là, on voit bien que ils ont fait un pari cette année. Moi, je les ai vus l'an dernier. La première chose, alors, je vais peut-être casser l'ambiance, hein, mais la première chose que quand je suis allé les voir cette année, j'ai dit, elles sont super jolies cette année. Contrairement à l'an dernier,
c'est vrai. Je suis pas d'accord.
Moi, honnêtement, je trouve que elles sont plus jolies que l'an dernier.
Après, t'as un homme qui a un poster dans sa chambre.
Il y a plus Loudy quand même. Il arrive à point.
Il avait un 4x3 de Loudy de la Silva quand même dans sa chambre, vieux Yeoman, faut le dire.
Ah ouais, d'accord.
Donc tu disais, hormis la
dédicacé.
Non. Après, sur j'ai vu deux matchs. On voyait bien évidemment qu'au début le grand chef arrive, donc j'ai fait attention à ce que je dis. Et en plus, voilà, ça fait toujours plaisir quand ça commence.
Un
comme
petit chabit.
Bah oui, c'est normal. On voyait comme ils étaient jeunes, il y avait encore, des automatismes à prendre, il y avait plein de choses et c'était encore un petit peu fébrile sur plein de choses. Là, c'est en train de monter en puissance. Et en plus, ils ont eu pas de bol parce qu'ils ont eu vachement de blessés. Donc, avant d'avoir l'équipe au complet, ça a mis du temps. Donc, maintenant, moi, j'espère que ils vont engranger des victoires et que ça remonte parce qu'elles sont pas à leur place, honnêtement.
Eh ben, on va être d'accord avec ça.
Je crois que, d'une manière générale, on en parlait ce midi autour d'une bonne bière avec Gonzalo. Elles ont dû jouer les phases finales ou les playoffs, se qualifier pour les playoffs à 6 ou 7 victoires. Par le passé, là, sont déjà à 4, donc c'est pas si loin que ça, en fait, le total des saisons précédentes. Après, peut-être que
cette année, il en faudra plus.
Peut-être que le total des adversaires sera plus important cette année, mais les années d'avant, c'était passé comme ça. Peut-être que le championnat se solidifie, se densifie dans le milieu, autour de la place qualificative. Voilà. Bonjour, Raoul.
Salut, patron.
D'accord, pas d'accord?
Toujours d'accord avec ce que tu dis, on n'a pas le choix ici.
Pour lui qui n'est pas là au webcam un jour, vous verrez, ils sont tous attachés devant leur micro. Et quand ils disent des conneries, c'est alors petite décharge.
Moi j'avais une question en fait, ce texte là, parce que du coup vous avez lancé ça. Moi j'étais absolument pas au courant vu que j'avais été mardi et que c'était pas mardi. C'est quelque chose qui se reproduira dans le temps ou c'est un texte définitif? Ou là c'était lié à l'actualité? J'ai pas capté la subtilité.
C'était connais pas le rôle stimulateur de la presse.
Donc ça, c'était dans le guide de la rencontre.
C'était le programme du match.
Le programme du match, d'accord.
Voilà. Donc le prochain match, il y aura un nouveau programme, logiquement.
D'accord. Non, parce que je trouve que poésie et sport fait pas toujours bon ménage, moi. Donc je suis un peu surpris un peu de cet élan.
Fond.
Oui, aussi.
Bon ménage.
Très bien.
On est en forme ce soir.
Non, ça provoque encore en moi, parce que c'est vrai que moi, je suis pas trop dans le côté après, j'ai pas du tout envie de. Mais c'est vrai que ça fait. Bon, il y avait un côté un peu. Je sais pas.
T'as pourtant une culture basket. Ouais, avec mais non, là, ces belles maximes au déjà, port des gymnases, dans les vestiaires.
Il y a des images qui me venaient pas comme ça. Donc,
normal, la gang, c'est pas ton truc, toi. C'est la loose, toi.
C'est la loose. C'est bien connu.
À Netreville, vous avez connu ça, c'est bien connu. Comme Yannick Gonzalo.
Non, mais il est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant, voilà le terme que je retrouve.
Il y avait quand même pas mal de poètes sur les terrains de basket à la LM à une époque. Des grands poètes.
Ah là là, qu'est-ce qu'on les a domptés, les tangos.
Alors, avant d'enchaîner sur le premier sujet de la soirée, on va de suite attaquer dans le vif avec l'arbitrage, et notamment les critiques envers les arbitres de personnes placées dans un organigramme de manière correcte. On va enchaîner avec un petit morceau du choix de Gonzalo, et non pas celui de Damienski. Peut-être. Avant la fin de l'année.
Shut the door. I feel my feet upon
pas pourquoi ça s'est coupé, c'est comme ça, ça arrive. Il y avait marqué 20.
Je suis pas sûr de tout, moi.
Bon, allez, on va attaquer donc le vif du sujet après ça.
Bon, alors, la tactique, elle est simple. Hein. On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont traité de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites vies. Alors, Berthier, Morillo et Spivak, je veux que vous me les défonciez.
Oh, Spivak, c'est ce qu'il a dit, numéro 10. Les Polacs qui leur chiaient sur la gueule.
Bon, alors, celui-là, il touche plus un ballon. Hein. À la première occasion, tu lui prends la canne.
Ces types vous méprisent. Alors, vous avez 45 minutes pour régler vos comptes.
Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles.
On ne gagne pas avec sa technique. On gagne avec ça.
Eh oui.
Faut renouveler les jingles, hein, ça devient redondant quand même.
Bon, d'accord, on va y travailler. Pas de soucis.
On va travailler. Mais à chaque fois qu'on travaille, t'es pas content aussi.
Est-ce que t'avais travaillé pour sortir cette merde l'autre fois? Attends.
Est-ce que tu crois que ça se fait comme ça, toi?
Non, mais je vais ressortir
tu tapes,
l'autre.
Tu tapes grossemerde.fr, tu trouves le jingle que tu m'avais collé. Ça, y'a pas de soucis.
Alors, on va parler.
Il est rancunier, là.
Ah, dis donc.
Hein, elle est terriblement rancunier.
Elle fucking ça. Blue Boy, ça l'a énervé, ça.
Allez, on va parler des arbitres et surtout de toutes les critiques qu'ils reçoivent en ce moment. Je crois qu'ils sont habillés pour quelques hivers et pourtant l'hiver est doux.
Pourtant l'arbitre d'Evrenant, il était plutôt pas mal, surtout la dame.
Ben, je crois qu'elle s'est fait
J'en
habiller.
J'en parlais avec Michel Janson.
Et Estueux aussi, qui l'a, la passeuse de Nantes qui l'a aussi bien couverte d'injures. Voilà, donc...
passeuse internationale, voilà. On le rappelle.
C'est un peu à la mode, il y a beaucoup de gens qui s'en prennent aux arbitres en ce moment. Et on va essayer de faire un peu le point, bien, pas bien. Le dernier en date, donc c'est pour nous, on en a parlé, c'était quand même l'ami Véronais, notre plus grand ami au Café des Sports, monsieur Kinder, ou le coach de la Kinder Team, qui...
Tu veux dire que c'est une tête d'œuf toute vide?
Ouais, qui...
Non, il y a des jouets dedans. Non, non, c'est quelqu'un de très intelligent. Non, pense... Et par contre, il a eu un réflexe qui était pas très beau. Souvent, qu'on assimile à des gens d'un peu. Voilà, des réflexes un peu droitiers, droitistes. C'est-à-dire, ouais, mais Boudjelal,
c'est
il
pas
a
moi.
Pas tort. Il a pas tort. Il dit des choses qu'on pense tout bas. Voilà, ça gratte, ça.
Et voilà, et puis bah donc il y a Boudjelal qui vient de prendre quand même au passage 130 jours de suspension de stade, etc. etc.
Tout ça pour une sodomie.
Vestiaire et de terrain.
Ouais, voilà.
130 jours pour une sodomie.
Ouais, bah, fucking Blue Boy, ça me coûte que 30 euros.
Et 50, on a dit tout à l'heure. Renvoie pas les services.
C'est pour la double.
Et donc voilà, donc on va faire un peu le point. On va
alors, attaquer. Rappelle un peu parce que je crois que les gens comme Yo-Yo Man et d'autres voilà. ne savent pas de quoi tu parles.
Alors,
non, les ignorants comme moi.
On va attaquer par.
Pourquoi tu parles de Boudjelal?
Alors,
il sait pas.
Moi, je vais attaquer par Boudjelal et puis après Florian viendra sur le cas de Monsieur Véronais qui le connaît bien ou bien.
Non mais
qui connaît.
Qui je connais aussi.
Rappelle son sport de. Non mais j'y vais. Vu que c'est son sport de prédilection. Monsieur Boudjelal lors de sa récente défaite.
Contre Boulassac.
Contre Clermont. Non, on parle de Boudjelal. Oh là là, Damienski.
On a pas appelé les boulets. C'est pas le moment pour les boulets.
J'ai survéronné, pardon.
Voilà. Donc, il est... comment dire ils ont perdu dans les dernières minutes. Ils ont eu quelques occasions de marquer ou de scorer. Et il s'avérerait que peut-être les Clermontois ont un peu plongé sur certains regroupements, rentré sur les côtés. Des choses que tu peux siffler dans un côté ou de l'autre quand t'es arbitre. Et là, ils ne se sont pas fait pénaliser. Ils recevaient. Et du coup, il y a deux ans déjà, ces mêmes Toulonnais avaient perdu en demi-finale du championnat de France. En quart. C'était le match de barrage. Contre ces mêmes Clermontois, l'année de leur sacre. Et il y avait déjà eu un petit incident sur l'arbitrage comme ça, avec un essai où il y a eu en avant.
Oh bah, il était largement en avant quand même. C'est pas paraît-il.
Ah bah c'est il paraît vu qu'il y a eu essai. Donc voilà, moi j'en reste au fait. Il y a eu essai accordé, malgré la vidéo et tout ça. Et donc, Monsieur Boudjelal, après cette rencontre, a juste dit qu'il venait de vivre sa deuxième sodomie arbitrale.
Ce dit le terme est drôle. Hein.
Voilà, non mais c'est...
On parlait de poésie tout voilà. à l'heure. Voilà.
C'est joliment dit, c'est bien
c'est
tourné.
C'est une belle allitération.
Et ce matin, sur France Inter, à 6h35, Madame Montebourg, disait sodomie arbitrale, c'est un concept.
Et donc voilà, donc Bugella a sorti ses propos qui ont été repris. Et là, je laisse la parole peut-être à Florian ou à Damienski, nos spécialistes basket. Florian, t'as eu l'écho de l'après-match Boulazac-Rouen ou pas?
Non, éclaircis-moi.
Damienski.
C'est vrai que Gonzalo et le bon réflexe de nous en plus faire partager cette vidéo où, en fait, interviewé à la fin de la rencontre, il remercie ses joueurs qui ont, semble avoir fait un bon match, effectivement, face au leader, accroché de 2 points, c'est honnête. A priori, mais que malheureusement, sur la fin de match et durant une partie de la rencontre, les décisions n'avaient été clairement pas prises de manière objective et qu'il en avait été pénalisé. Et donc sur la fin, il se lâche quelque peu, mais sans se lâcher vraiment, puisque il dit que il reprendrait. Plus précisément, il dit que Bugellal, voilà.
Il a juste le courage de faire de la paraphrase.
Voilà.
Exactement.
Qui donc dit précisément.
C'est pas mal.
Oui. Sauf que lorsque le journaliste revient à la charge pour dire oui. Valider en fait ses propos, il botte en touche une fois de plus, donc en fait à aucun moment donné il ne recite exactement, il ne fait que voilà, donner un exemple.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'autre. Voilà. C'est pas de ma faute maîtresse, c'est l'autre.
Voilà.
C'est super
non
facile.
Assumé quoi.
On n'est pas habitué à Évreux. À Évreux on n'a pas ça nous, parce que les coachs dans le coin c'est quand même plus direct.
C'est plus franc. Mais alors du coup d'un point de vue arbitral ou autre, il peut être, être pénalisé ou non?
Ben non,
alors,
parce qu'il a utilisé des paraphrases.
D'accord.
Voilà, déjà d'une part, parce que moi, j'ai eu un cas comme ça en N2 où il y avait un coach qui a fermé sa gueule tout le long du match. Il m'a rien dit du tout. Il perd de 4 points. C'était sur un match pour la montée. Et 2 jours plus tard, dans le journal, je vois qu'il me descend, mais un truc de malade. Moi, je m'étais renseigné parce que c'est un truc de fou. Si il ne cite jamais le nom et le prénom de l'arbitre, tu ne peux absolument rien faire. Donc voilà, même si on sait que c'est toi, tu peux rien faire.
Les commissions d'éthique, d'arbitrage, de disciplinaire, etc., outrepassent cette règle-là. Elles l'outrepassent, parce que moi j'ai déjà été sanctionné 4 matchs sans avoir nommé qui que ce soit. Hein. Juste dit qu'on s'était fait voler. Ça suffisait.
Non, mais c'est mieux que vous donniez cette information-là, parce que je crois qu'on serait un peu lâché à la radio, sinon encore plus.
Tu crains quoi, toi?
Oh, rien.
Suspension de micro.
Suspension de micro.
Ouais, c'est vrai, possible.
Yo-Yo, t'as jamais été volé, toi, à l'arbitrage?
Non, jamais.
T'es toujours resté calme?
Toujours.
Et toi, Gonzalo?
Bah, ouais, non, mais attends, mais faut poser le.
Moi, ça fait 15 ans qu'il y a une personne qui m'a arbitré, je lui parle pas.
Faut poser le contexte.
Il fallait se renouveler tous les week-ends, dans la formule envers l'arbitre. C'était du slam par moment, quand même.
On parlait de poésie.
Ah oui, oui.
Non, mais faut poser le contexte. Le fond du problème qu'a mis en avant Bugellal, à part cette phrase choc qu'il a utilisée sciemment, ça c'est clair.
Bien sûr.
C'était de dire voilà, le rugby est un sport professionnel, j'investis des millions dans mon club, les joueurs s'entraînent 2 fois par jour ou 3 fois par jour, etc., etc. Et la dernière roue du carrosse, c'est l'arbitrage.
Non, là c'était plus Chabal. Le propos. Le
oui, lui il a refait la même.
Non, non, le fond du propos de Bugellal, c'est pas dire ça.
Non.
C'est de dire Revol, Bouscatel, Michelin sont pas arbitrés comme moi.
Non, mais il y a 2 choses. Il y avait ça, les parents pauvres du rugby. Les arbitres, et puis il y avait la cabale fédéraste, enfin ligaste.
Ligaste, exactement. Ligaste. Parce que il disait,
la cabale des grands pontes de la Ligue nationale de rugby.
Il parlait des 4.
Et qui s'étendait jusqu'à l'ERC et la Coupe d'Europe. D'accord, mais là, ce qui nous concerne, c'est l'arbitrage. Et donc il faut bien replacer les choses dans leur contexte. Question, est-ce qu'un arbitre doit être professionnel pour arbitrer une compétition professionnelle, oui ou non? Je la pose, on y reviendra après. Deuxième question, avantage ou inconvénient d'avoir un arbitre professionnel? Moi, je vous attends.
Là, c'est vachement intéressant parce que on se posait ça.
Donc, le décor.
Et parler dans le micro aussi, ce serait bien.
Ouais, ouais, ouais. Bah, je partage, c'est pour ça. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on arbitre de l'amateurisme, donc N1, N2, N3, par exemple, en basket, je prends l'exemple du basket, c'est de l'amateurisme. Professionnel commence à prober. Les arbitres, on demande un boulot, alors qu'on est amateur, hein, un boulot énorme. On te demande d'être évalué 4 fois dans l'année, on te demande de te faire filmer, on te demande de renvoyer ça à ton formateur, alors que t'as un boulot, que t'as une vie de famille, et ça. Alors après, vous allez me dire, ok, d'accord, mais on t'a pas obligé d'arbitrer. Vous avez pas tort. Mais derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus exigeant avec les arbitres.
Niveau du slip.
Ouais, voilà. On est de plus en plus exigeant avec les arbitres. Derrière, ce qu'on oublie très souvent, c'est que l'arbitre...
tu es un homme avec un cœur qui
non,
vibre.
Non, mais ça pue la démago. Mais moi, je vous promets qu'il y a des matchs où où tu te dis, ben voilà, j'ai fait mon taf, parce que des fois on se plante complètement, normal. Hein, moi je suis sorti de match où j'avais la tête baissée parce que j'avais arbitré comme de la merde.
Je crois que t'as un très bon copain du côté de Val-de-Reuil, on nous écoute aussi sur le 102.4 FM.
Exactement, et ça ils me connaissent, j'ai été super nul, c'était mon dernier match, je savais que je pouvais monter en National 1, je me chie complètement, je passe à côté du match, les joueurs eux ont pas joué basket, ils ont joué à leur jeu, ils ont vu que j'étais nul donc ils m'ont enfoncé. Je me fais évaluer, c'était blandé. Donc là, je sais que c'est pour ma gueule. Mais
tu seras jamais arbitre numéro 1 de Normandie ou de l'Ouest de la France. Parce que le garçon qu'on a reçu au rugby, n'est jamais trompé.
Non.
Ah bah alors moi, je peux vous dire que sur un match, et ça c'est vrai, un bon arbitre, quand il fait un bon match, c'est minimum, je dis bien sur match de basket, c'est minimum 7 erreurs. Alors les erreurs, après, il y a une gradation, mais c'est minimum 7 erreurs.
Bon, on était parti sur les pros.
Non, c'est très intéressant.
On est dans la mode bonne démarche.
On est vraiment dans la bonne démarche. Alors déjà, tu es aussi dans la bonne démarche si tu es capable de reconnaître que tu as fait des erreurs. Mais 95% de tes collègues ne font jamais d'erreurs. Ou alors, mieux que ça, je vais t'en citer une, moi. Une belle. Femme de l'ex-président de la Fédération Française de Volleyball, ex-international, arbitre de niveau national jusqu'en Liga, donc. Qui nous sort à un match, à la mi-temps d'un match, quand on va la voir, en lui disant, bon, il y a quand même quelques petites choses à reprendre, parce que là, le match, il est en train de partir en sucette. Si vous voulez que ça se passe bien, ça serait quand même pas mal de recadrer les deux équipes. T'as dit, vous voulez que je vous donne mon avis sur votre façon de manager, sur la façon de jouer de vos joueuses? Donc, j'étais très maladroit, le ballon m'a échappé des mains, il est parti dans sa direction.
Mais là, elle a tout perdu. Là, elle a tout perdu, et là, t'as tout gagné, entre guillemets.
Non, il a tout perdu.
Non, je me suis fait enfiler les deux sets d'après.
Ouais, mais parce
Je te le dis clairement, j'ai gagné quand même, et je me suis enfilé.
Mais parce que pour moi, ça n'est pas de l'arbitrage.
Il y a un arbitre très célèbre de foot, là, qui était l'un des meilleurs, enfin, des plus cotés en France il y a 2-3 ans. Il y a un joueur qui vient le voir en disant, mais c'est une mauvaise décision. Et l'autre, lui dit, dis donc, t'as pas raté un penalty, toi, tout à l'heure?
Laurent Duhamel?
Non. Comment?
C'était pas Laurent Duhamel,
le Rouennais?
Non, c'était un autre avec les cheveux courts. Vessière.
Par contre, là où je te rejoins pas du tout, c'est quand tu parles des contraintes qu'on t'impose, de filmer 4 matchs dans l'année, d'être supervisé, etc. Alors, je rebondis, c'est pas le cas dans toutes les fédérations. Moi, je connais des arbitres qui ont pas vu un superviseur depuis des années et des années, dans mon sport, dans le tien également.
Dans le mien aussi.
Deuxièmement, messieurs, vous oubliez une chose, c'est que même en Fédéral 3 ou en National 3 de basket, les joueurs que vous arbitrez s'entraînent 2 à 3 fois par semaine.
Ça, on en a bien conscience.
D'accord.
Moi, j'aimerais bien que les arbitres s'entraînent autant que les joueurs.
2 à 3 fois par semaine. Surtout dans des sports physiques. Surtout dans des sports physiques comme le basket ou le rugby ou le handball. Non, pas le handball parce qu'ils partagent le terrain. Mais où ils sont amenés à courir et à perdre de la lucidité à cause de ça.
Et là, je suis d'accord avec toi. Dans le sens où, après, bien évidemment, c'est un investissement de chacun. Moi personnellement, bon, parce que j'étais sportif tout le temps, je courais. Bon, ok, ça c'est mon cas personnel.
Mais si t'étais pas comme ça, tu serais pas là, hein, ce soir.
Je pense aussi. Les arbitres en début d'année en basket. Si tu veux réarbitrer en championnat de France,
c'est une évaluation.
Ok, voilà. Alors l'évaluation, on peut en reparler parce que je suis d'accord avec toi. C'est un peu du foutage de gueule. Parce que pour faire 11 paliers sur du léger, je veux dire, le premier mec qui fait de la course à pied, il y arrive. Mais derrière.
Gonzalo, il le fait avec une bière dans la main et une clope dans l'autre. Alors,
Bernard.
Mais c'est mieux que rien.
Ouais. Mais voilà, on essaye, en tout cas, je parle de la fédé de basket. Ils essayaient quand même à un moment donné d'être crédibles en disant mais les gars, ok, les arbitres avec 70 kilos de graisse qui vont arbitrer des mecs qui courent comme des malades, qui ont 3 entraînements par semaine, qui ont de la PPG, qui se cassent le cul, qui sont payés parce qu'en National 3, National 2, moi j'ai arbitré un Hugo qui était payé 1 600 € net par mois à Rueil. Je pense qu'à un moment donné.
Les impôts, vous entendez?
Voilà, à un moment donné, il faut se bouger, il faut être crédible aussi. Parce que si t'es pas capable d'être derrière sur une contre-attaque où le mec, t'as 2 mètres d'avance et fin de contre-attaque, il est 3 mètres devant toi, comment tu veux arbitrer correctement?
Alors, moi, je voudrais revenir à la question championnat professionnel, arbitre professionnel ou pas?
Votre avis?
Oui.
Moi, oui.
Moi, oui.
Yoman?
Oui. Damienski?
Complètement.
Ouais. Parce que. Alors, moi, je vous demande d'argumenter. Je vous demande les avantages et les inconvénients.
L'avantage.
Et notamment à l'éclairage des 3 dernières années et du développement des paris en ligne et de ce genre de choses.
Moi, j'y vais. Arbitre pro, parce que ça permet effectivement une évaluation constante et permanente avec, entre guillemets, des contraintes de physique, des contraintes aussi de réussite. Il y a un arbitre qui se plante 3 fois, il a beau être de bonne foi. Hein. On peut se planter en toute bonne foi. De dire mon petit gars, tu descends d'un cran.
Mais toute peine mérite salaire, mais pour accéder au haut niveau, il leur faut
tu iras arbitrer en dessous. Mais ce qui donc contraint les ligues à avoir des superviseurs à chaque match.
Rappelons que dans la plupart des sports,
sont pas réellement des superviseurs et que le système, on en avait déjà parlé tous les deux, le système d'entrée dans le corps arbitral, c'est un système de cooptation.
Ouais. Totalement.
Par défaut, bien entendu, puisqu'il n'y a pas assez de candidats au poste.
Et il ne faut pas que le superviseur passe son match à la buvette, ouais, comme j'ai déjà vu en basket ou en volley.
Donc moi, je te rejoins complètement sur, je te rejoins complètement sur l'intérêt d'un corps d'arbitre pro qui soit certifié, validé, évalué, entraîné, préparé
par des pros.
Par contre, compte tenu de la nature humaine, je mets quand même un bémol. C'est justement les jeux d'influence, les jeux d'argent. Le fait que ces gens-là soient les petits soldats d'une ligue qui veut promouvoir tel ou tel produit. Ah oui, non, mais attends. C'est moi, faut pas me faire croire l'honnêteté.
Mais je suis d'accord avec toi.
La partialité est plus l'orientation,
les consignes.
Est plus préservée avec des gens qui ont un boulot à côté.
Il y a une autre chose qui est dangereuse, c'est que je crois que dans le milieu du football, c'est la même école qui crée les arbitres, enfin, qui les façonne ou qui les éduquera, on utilisera le terme qu'on souhaite. Mais il semblerait qu'il n'y ait qu'une école. Et moi, ça, je trouve ça dangereux dans l'absolu qu'il n'y ait qu'une école. Ça veut dire qu'on peut avoir eu les mêmes profs, les mêmes endoctrinements, même si on va loin.
En rugby, il n'y a quasiment qu'une école, c'est l'école toulousaine.
Non, mais en arbitre, si tu es formé par Joël Judge, tu es formé tout à fait correctement.
Au foot, c'est peut-être pas le cas.
Non, mais au basket, si c'est Gasperin qui s'y colle, c'est un excellent arbitre et le mec.
On va revenir sur l'arbitre le plus coté. On en avait parlé aussi. L'arbitre le plus coté actuellement, quasiment en pro A masculine, c'est Mestre.
Oui, c'était d'accord. Mon formateur.
C'est une catastrophe ambulante, quoi.
Alors, oui et non. Alors, on va revenir sur Gasperin. C'est intéressant. Je sais pas si vous savez ce qui s'est passé dans le basket actuellement. C'est un vrai bordel.
Bruno Gasperin.
C'est l'arbitre c'est le de poids le plus charismatique et le plus capé, en fait.
Très bien.
Le plus respecté. Ce mec. C'est lui qui a, entre guillemets, lancé la grève des arbitres cette année dans le basket pro A pro B, ça a foutu le bordel.
Rappelons que les 5 premiers matchs ont été arbitrés par des arbitres étrangers.
Exactement, et ça a foutu le bordel parce que ça a été aussi arbitré par des arbitres de NM1 qui sont arrivés en pro B pro A, et maintenant ils ont vu que les mecs ils tenaient la route, donc les mecs ils sont restés en pro A. Et Gasperin, je sais pas si vous imaginez, premier arbitre de pro A et maintenant troisième arbitre en pro A parce qu'il a ouvert sa gueule, parce qu'il a dit simplement, mais les gars... non, ça va pas, on est payé. Voilà, il y a plein de problèmes, les défraiements, tout ça.
La revendication première, c'est l'argent.
Voilà, j'allais venir, c'est ça. Le statut, et ils ont pas tort, hein, d'une certaine manière, parce qu'à un moment donné, il faut que ça évolue aussi. Hein. C'est bien joli d'avoir fait un syndicat arbitre, mais les gars, ils sont contents parce qu'ils exploitent aussi un petit peu, et puis vas-y, on balance comme ça, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc là, voilà, Gasperin est quand même troisième arbitre en pro A. Je me pose des questions.
Moi, je te pose une autre question dans l'autre sens. Si Gasperin a ouvert sa bouche, il est rétrogradé, entre guillemets. Enfin, il est placardé.
Voilà.
Quid d'un mec comme Bretagne?
Voilà, il y a Bretagne.
C'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu par ses pairs, lui. Il est reconnu par les joueurs, par les entraîneurs, mais pas par ses pairs.
Et Radonjic, il a toujours été reconnu que par la Ligue. Hein.
Ouais.
Alors, Ligue,
alors
et parce que
tout le monde lui crachait là.
Voilà, exactement. Mais il était intouchable. Et donc, il a aussi amené une évolution aussi, basket. Hein. Ça a été le premier à dire, voilà, les gars, je vais aller voir une vidéo parce que je veux voir si le panier, il est validé ou pas. Et ça, il a les couilles de le faire. Et ça, je pense que c'était une grande avancée. Ils ont pas, bien évidemment, ils sont pas allés là-dedans parce qu'ils ont dit, oulala, oulala, on va trop vite. Et c'est un mec qui, lui, il courait pas. D'accord. Ok. Sur les contre-attaques, il était 10 mètres derrière.
Il a pas besoin, lui.
Mais voilà, c'est ce que j'allais dire.
Il avait une connaissance du basket.
Exactement. Il savait ce que c'était le basket. Il était capable de siffler à 10 mètres et d'avoir juste.
Est-ce qu'au final, quand même, l'exemple, ce qui existe dans le volley et dans le rugby, sauf que le rugby, je trouve, ça commence à causer un peu trop, le volley également. Est-ce que la bonne mesure dans tous les sports, c'est vous la fermez?
Le respect total, non. La règle des 10 mètres, etc.
Non. Basket, ça, même en N3, je vais voir souvent la N3.
Ouais.
Avec les championnats, c'est quoi, c'était les championnats d'Europe qu'il y a eu cet été?
Ouais.
Championnat d'Europe où on voyait Boris Dio, Tony Parker,
Batum,
toujours avec la main sur
les Espagnols.
Les Espagnols, toujours avec la main sur l'épaule de l'arbitre après chaque décision. En N3, en octobre, septembre-octobre, là ça s'est un peu calmé. Septembre-octobre, à chaque décision, les mecs, ils allaient voir l'arbitre pour tchatcher, quoi.
Alors, ça fera peut-être un très bon lien avec ce qu'on va parler tout à l'heure, le handball.
Ah, parce ils ont causé aussi. Hein.
Sur la première phase, les Fernandez, les Karabatic, ils ont quand même souvent ramené.
Plus parlé que
joué. Hein.
Moi, je sais que j'ai un joli petit casier disciplinaire, parce qu'on appelle ça comme ça.
Ah bon?
Ouais, mais justement, je crois que j'ai pas pris de carton depuis 2 ans.
Bravo.
Pas pris de suspension depuis 3 ou 4 ans.
Bravo.
Depuis 3 ans.
Même pas de permis.
Honnêtement, je suis écœuré par l'attitude de la moitié des équipes de la division dans laquelle je joue actuellement, qui passent leur temps à réclamer tout et n'importe quoi sans aucun scrupule, sans aucune honte. Pas que les sudistes. Oh, si. Pas que les sudistes.
Les sudistes.
Calais, c'est dans le sud.
Ah, mais Calo, elle est sudiste.
Le sud du nord.
Ouais. Mulhouse, c'est dans le sud.
Oh, ça, ça cause moins que Saint-Raphaël, etc.
C'est des enflures. C'est des enflures.
Ah, donc, en fait, a priori, quand on vous écoute, c'est vrai que ce serait peut-être une bonne chose, mais qui est presque malheureusement, est-ce qu'il faut essayer de se battre pour impossible à mettre en pratique. On voit en NBA le trash talking, on voit le foot à la télé qui est le sport le plus médiatisé où ça ne fait que se la ramener, pas être content au basket, je suis désolé, ça râle depuis toujours sur les terrains et pas que dans les playgrounds et qu'en National 3, moi j'ai toujours connu des joueurs qui voilà, on en a un bel exemple à Évreux, Benoît Toffin, c'était pas quelqu'un
N3,
qui se laissait
faire. N3 ça a changé, hein. Moi qui y vais maintenant tout à fait régulièrement. Effectivement ça cause un peu, mais par contre ça tombe vite, hein.
Alors voilà, ça, moi,
ça tombe beaucoup plus vite qu'avant. Généralement, ça fonctionne par pair.
Pourquoi?
Les mecs, ils sont souvent par pair.
Et pourquoi
ils tournent souvent? Ouais, ils tournent souvent par pair et ça rigole pas.
Et moi, je vais aller plus loin.
Donc, moi, je trouve ça intéressant d'ailleurs le fait d'arbitrer par pair.
Oui.
C'est-à-dire que tu gagnes des réflexes et souvent tu soutiens.
Ça vient du hand. Hein. Ça vient du hand, ouais, exact.
Tu soutiens ton compagnon et t'y vas, quoi.
Oui, mais oui et non, parce que c'est une bonne solution là-dessus, mais c'est aussi vachement intéressant de siffler avec. Moi, j'ai bien évidemment le basket, j'ai sifflé avec tout et n'importe quoi dans ma zone nord. C'est aussi vachement intéressant de changer à chaque match parce que t'as aussi une capacité d'adaptation. T'as aussi, toi, ça te permet aussi de vachement évoluer parce que moi, j'ai eu des mecs. Si, je te promets, j'ai eu des mecs qui sont arrivés, les cowboys. Moi, j'avais 24 ans, j'arrive en N2, le gars, il fait, mais c'est qui ce mec? Attends, j'ai 35 ans, j'ai 15 ans de bouteille d'arbitrage. Le mec, il se prend pour qui? Il va aller siffler dans ma zone. Et alors, à juste titre, parce que des fois, je me plante, mais parce qu'il oublie une faute. Ah, bah, c'est aussi, bah, tu te poses, tape, t'as un temps mort, t'as un truc. Voilà, on va retravailler notre truc. Des fois, ça te permet aussi d'évoluer là-dessus.
Vous avez vu les échanges entre les arbitres de Pro A, qui arbitrent à 3 maintenant,
à chaque
qui
temps
ont
mort.
Micro-cravate sur les matchs retransmis,
à chaque temps mort.
Avec une hiérarchie très bien définie dans les trios. Moi, je trouve ça super intéressant.
Alors,
et sachant qu'il y a quand même un putain de client en ce moment, c'est Viator.
Alors, lui, c'est mon formateur, Viator. J'ai encore eu il y a 6 mois au téléphone.
Il est très bien parce que sur les temps morts, il dit tout à l'heure, tu t'es planté, je t'ai pas déjugé, fais gaffe. Ouais, et du coup, il a un propos assez musclé.
C'est un mec qui est hyper, hyper intéressant, hyper intelligent. Moi, j'ai discuté 2-3 fois avec lui parce que c'était mon formateur. Et c'est un gars qui a vraiment les coronets quand il faut. Et quand il faut mettre le point sur la table, il met le point sur la table.
Moi, je trouve qu'on devrait la fermer sur les terrains. Le seul qui devrait causer.
C'est le patron.
D'ailleurs,
moi,
c'est la call girl du samedi soir.
Je veux quand même répondre à Gonzalo.
Non, c'est au coach de prendre la pression et pas au joueur.
Il faisait le parallèle avec le rugby et le volley. Est-ce que la règle des 10 mètres, est-ce que l'interdiction de parler à l'arbitre par quelqu'un d'autre que le capitaine, entraîneur compris, c'est une bonne chose ou pas? Moi, je dirais déjà, il y a des règles dans tous les sports, qu'elles soient respectées, qu'on les fasse respecter, clairement. Et deux, que les gens qui rédigent les règles arrêtent de créer des règles subjectives. Ça facilitera la tâche à tout le monde, joueurs, entraîneurs et arbitres.
Et il y a la manière de faire respecter les règles.
Allez, on clôt ce débat sur l'arbitrage. Pause musicale et puis on se retrouve après. On parlera de hand et de rugby.
Jusqu'à 22h encore.
Allez. We'll be right back.
money and run.
C'était quoi ?
Uncle avec Nick Cave au chant. Excellent morceau, dit Yo-Yo Man. Merci.
Yo-Yo Man confirme.
La caution musicale.
Oh ! Mince ! Un mort dans la salle. Eh ben allez, jingle et puis on parle de ça après. Et oui, bienvenue en direct pour le Café des Sports sur Principe Actif 102.4 FM ou principeactif.net. Vous pouvez toujours chatter avec nous en direct sur le site de la radio et puis réécouter ces émissions en podcast.
Ouais, on peut en placer une aussi pour Dominique de Chamboul-Rien.
Chamboul-Rien, oui.
Puisque exceptionnellement, en fait, notre date tombait avec sa quinzaine normalement où il officie. Et donc, désolé, vous le retrouverez dans la semaine prochaine, tout simplement.
Ah, je ne savais pas qu'on avait empiété sur ça.
Et on n'y pouvait rien et le pauvre non plus. Voilà, mais une pensée.
D'accord, et ben bonjour Dom. Juste pour enchaîner sur les informations radio, c'est le Café des Sports et on se retrouve également pour ceux qui nous découvrent tous les mardis midi de 12h30 à 13h30. On va tout de suite parler de rugby et de l'annonce de la première compo par Saint-André. Alors on ne sait pas qui débute réellement, mais il y a quelques surprises. Il y a quelques
Le contexte c'est sélection pour
Le tournoi destination qui commence
Italie, c'est ça,
le 4 février avec la réception de l'Italie. Souvenez-vous, l'an passé, nous avions perdu là-bas d'un point.
Ouais.
Voilà, ça avait été très long et très laborieux. Et l'arbitre, pour revenir à lui, n'avait jamais sifflé la pénalité sur la mêlée que tout le monde attendait.
Et à ce moment-là, on n'imaginait pas aller en finale de la Coupe du Monde.
Oh que non, c'était la fin du monde et la fin de la Fédération Française de Rugby. Tout le monde est parti mettre un cierge à Notre-Dame du rugby et puis voilà. Donc l'annonce du groupe, ça fait pour les avants, Vincent de Batty, Pilia Clermont, Nicolas Mas de Perpignan, Jean-Baptiste Poux, le Toulousain. Et la surprise, c'est David Atoub, pilier au Stade Français qui avait été suspendu, rappelez-vous, pour une fourchette. Je rappelle ce que c'est la fourchette, les deux doigts
contact
dans les yeux.
Au niveau des yeux.
Voilà. Voilà, et donc il a été appelé pour remplacer Luc Ducalcon.
Castré.
Sur Atoub, on rappelle qu'il prend.
Un an et demi,
18 mois. Alors que lui-même avait été shooté sur un roc. Il avait pris un coup de pied au visage d'un Anglais. Et lors de la commission de discipline, malheureusement, la vidéo.
Ils avaient perdu les images.
Et comme la commission de discipline ne se réunit qu'une seule fois, pas d'image, pas de sanction pour l'Anglais.
Pas vu, pas pris. De bras, pas de chocolat.
Alors, on revient donc à Atoub et sa sélection. Saint-André ne l'avait pas appelé au départ. Il avait appelé Ducalcon qui était mondialiste. Et au final, il l'a défait de la liste en justifiant sur le fait que depuis l'annonce des 30, il n'a joué que 20 minutes avec son club ou 25 minutes. Et du coup, il a dit « je prends un homme en forme qui joue avec son club ». Qui plus est, qui a une mêlée plutôt intéressante en ce moment pour le Stade Français.
Politique à court terme ?
Il veut gagner le tournoi. Il l'a dit clairement, Saint-André veut gagner ce tournoi.
Donc c'est quand pour tu ça. Sélectionnes 17 mondialistes, dont certains ont plus de 32
dont
30, ans.
Dont des trentenaires.
Même Atoub, 31 ans, je crois.
Non, mais ça veut dire que.
Un pilier de 31 ans, ça me gêne moins qu'un 3 quarts, 32 ans.
Ça veut dire que sa priorité, c'est son poste, sa tranquillité à lui.
Sur le moment, oui. Pour l'instant, oui.
Il veut asseoir sa position par des victoires.
Voilà. Après, on y rajoute l'étalonneur. William Servat et Dimitri Sarzeski, je pense que en ce moment c'est on aurait peut-être pu voir le petit Kaiser de Clermont.
Moi je pense que Toulon ils vont être contents dans 6 mois. Quand ils vont récupérer Servat.
Ouais,
il sera HS. Bon pour l'hôpital.
Ouais. Après en deuxième ligne Pascal Papé, On va voir Johan Maestri, ancien capitaine du Pôle France, grand joueur. Crime France, sponsor officiel du Café des Sports. Johan Maestri, donc deuxième ligne du Stade Toulousain, qui arrive de Toulon et qui a été formé à Toulon. Lionel Nallet, donc là on fait appel au vieux. Bonner, qui a annoncé que c'était son dernier tournoi. Thierry Dussautoir, capitaine du Stade Toulousain et de l'équipe de France pour ce match. Louis Picamol et Imanol Arinordoki en...
Oui, ah, pourquoi ?
Bah, voilà.
Je joue pas.
Il a rejoué, il a rejoué.
Il a rejoué quoi? Deux minutes?
Ouais, il a
rejoué. En rentrant avec son père.
Non, mais.
Je valide.
Alors, il y a plusieurs interrogations. Hein. Ouais. Dès les avant, Maestri, qui est loin d'être titulaire au Stade Toulousain.
Ouais.
Interrogation. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure en rigolant, mais non sélection de Ouédraogo. Alors que quand même, il...
Ah
ouais.
Bah oui.
Bah on a... Non, le problème, c'est qu'on a... Ou pour moi, qu'on ait un jeune comme Maestri en deuxième ligne, accompagné de Papé et Nallet, c'est bien, mais on n'a aucun jeune en troisième ligne. C'est que des... À part Picamol.
Mais Picamoles, mais sinon, ouais, les autres, ils iront pas au bout. Enfin, ils iront pas dans 4 ans.
Donc, ça manque de 109. Après, en la charnière, Para, Yashvili.
Mais attends, ça manque de 109, mais est-ce que c'est équilibré déjà, en termes de profil de joueur?
Là, bah du coup, ça s'équilibre par rapport à ce choix-là.
Ouais, mais c'est lourd.
Bah, c'est lourd, c'est les Italiens. Hein.
Non, mais
il faut une grosse mêlée pour jouer les Rital. On le sait aussi. Hein.
Ça veut dire que c'est vraiment du one shot.
Voilà.
On gagne le premier match et on voit ce qui se passe.
Ouais,
après.
Je pense quand même qu'il est sur voir des joueurs et aussi adapter les profils en fonction des équipes. On sait que le pilier en face, c'est Castro Giovanni, qui est un monstre en mêlée. Et voilà, faut avoir une mêlée solide. Je pense qu'à tout, en ce moment, il montre des choses plus qu'intéressantes au Stade Français dans ce choix-là. Donc la charnière, je l'ai dit, ouvreur, ça jouera entre Trinduc et Boxis. Je pense que c'est les deux joueurs en forme, deux mecs plutôt jeunes.
T'as oublié en neuf, t'as oublié hein.
Non, j'ai dit Para,
Yashvili. Mais il y avait débat sur le deuxième poste.
Voilà, trois.
Il y a deux Parisiens dont on a beaucoup parlé depuis un an et demi, depuis son retour de suspension, et Jonathan Zwiniewski.
Oui,
cassé.
Complètement sorti.
Cassé là.
Non, mais pas que ça.
Il était pas dans les 30 avant.
Aussi, avant. Ouais.
Il est un peu moins en vue, ça. Et puis comme l'est un peu moins le Racing en ce moment d'ailleurs. Il paye aussi peut-être les résultats de son club en ce moment.
Ah, par contre, Dupuis.
Dupuis, il aurait pu.
Parce que Yashvili, très grand joueur, là-dessus, il n'y a pas à revenir.
Ouais.
Il a fait deux matchs et demi hein, depuis octobre.
Dupuis, Fritz, même combat
Carrément.
Ouais, je pense, ouais.
Délit de jeunesse.
Délit de conneries faites par le passé. Et
délit de grande gueule.
Et voilà.
Aussi.
Après, au poste, au centre, ça n'a pas changé. Les deux Clermontois, Rougerie, Fofana, un vieux, un jeune. Et puis Mermoz.
Qui a des bons résultats avec son club.
Voilà, Mermoz, c'est un peu. Mais voilà, c'est la prime au mondialiste sur ce coup-là. Et puis derrière, on retrouve Claire, Malzieux, Médard. Je pense que c'est pas trop mal, quand même.
Où est David?
David, il s'est blessé, donc il n'a pas été retenu dans les 30. Il a dû découvrir l'équipe de France par ce biais. Par le biais des 30, mais il n'a pas été retenu dans les 23.
Non, il n'a pas découvert. Il a déjà eu des sélections.
Ouais, une sélection.
On va revenir là-dessus. Hein. Pour comment justifier le fait de sélectionner le monsieur de Perpignan, Mermoz, alors qu'il ne fait pas grand-chose. Il est dans un club en difficulté, il ne fait pas grand-chose, alors que Fritz porte les lignes arrière à Toulouse.
Attends. Il est dans un club en difficulté, il devrait. Je fais un raccourci volontaire. Il est dans un club en difficulté, il devrait pas être sélectionné. Ça veut dire qu'en gros, tous les jeux internationaux doivent être dans les quatre gros clubs.
Non. C'est pas ce que
ça veut dire que derrière, ils vont avoir moins de temps de jeu.
Non.
Moi, j'ai vu jouer Perpignan deux fois cette année. Les deux fois, Mermoz a été bon. J'ai pas vu 14 matchs, ils ont dû en jouer 14.
J'en ai vu plusieurs.
J'en ai vu deux, les deux fois, il a été bon.
C'est-à-dire que. Il est arrivé.
Cette année, il est pas blessé.
Il est arrivé dans un club en difficulté. Il est revenu de la Coupe du Monde dans un club en difficulté. Les internationaux, lui comme Marty et comme d'autres, n'ont pas apporté une plus-value à l'équipe.
Hey, t'oublies quand même un détail important.
Ouais, ou.
Il y a eu un changement de staff.
Avec le changement de staff, voilà, c'est quand même compliqué. Un joueur qui n'a pas été retenu, par contre, et je vous pose la question. Payisson, qui avait fait un bon mondial, il a été sauté par PSA, qui justifie en disant ses performances avec Toulon sont plutôt en demi-teinte. Donc
je peux pas parler.
T'as pas vu Toulon.
Seule chose qu'on sait, c'est que le jeu de Toulon est hyper restrictif. Donc forcément, un ailier, il se met pas en valeur.
Alors à côté de ça,
il y a bien des gens qui punissent des jeunes en les envoyant à l'aile.
Ouais.
À Toulon, ça doit être la coutume aussi.
Non, eux, ils envoient pas de ballon. C'est même pas les joueurs qui mettent pas à l'aile, c'est le ballon. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Si, juste pour finir sur le ton de Saint-André quand même par rapport à cette semaine, il y a la première chose, c'est qu'il laisse quand même beaucoup le terrain à la Gisquet, notamment sur la défense qui paraît fait du la Gisquet et qui aboie dans tous les sens et qui n'arrête pas de couper, mais c'est un perfectionniste.
Ça veut dire qu'il travaille sur le système qu'avait Biarritz il y a 3 ans.
Ouais, je pense.
Qui est très 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 particulier.
Ouais.
Ça va prendre du temps, hein.
Après, je sais pas si c'est le même système qu'ils veulent mettre en place.
Tu m'arrêtes si je me trompe. C'était une défense où on laissait venir l'adversaire pour mieux l'entourer.
Ouais, il y avait des moments où on pouvait monter, des moments où il fallait canaliser pour aller gratter au sol pour être efficace sur la récupération au sol. Il y avait plusieurs.
Ça consomme peu de joueurs.
Ouais.
On attend, on
perd du terrain pour qu'à un moment donné on les laisse venir dans un trou et là, clac, on va jouer la récup.
C'est assez novateur quand même. C'est la seule équipe qui fonctionnait comme ça.
Voilà, mais ça avait marché à cette époque-là. Ils avaient surpris beaucoup d'équipes. On rappelle quand même que la Gisquet, il y a beaucoup d'entraîneurs de l'hémisphère sud qui viennent le voir sur notamment la vidéo et sur les systèmes défensifs du BO à une époque.
Ce type de défense, moi, ça me rappelle Yo-Yo Man avec le voleur de compote. On laisse venir. Oh mince, on a pris 2 points. C'était à toi de couvrir.
Et puis parce que j'ai pas de micro. Ouais.
Brandon, on peut rappeler situer s'il te plaît. La Gisquet d'où. Donc c'était Biarritz, son
précédent. Entraîneur du Biarritz.
C'est pas c'était.
Voilà.
C'était. Parce que particularité, les deux adjoints ou co-entraîneurs avec Saint-André sont encore en poste dans leur club. Bru à Toulouse, La Gisquet à Biarritz.
D'accord.
Et ça jusqu'à l'intersaison.
Jusqu'à la fin de saison.
Là où tu te trompes, ce ne sont pas les co-entraîneurs, ce sont les entraîneurs.
Ouais.
Et PSA, Philippe Saint-André, sera le manager à l'anglaise.
Ouais.
Alors, et pour clore sur la gestion de Saint-André, qui a souhaité, suite aux différents problèmes avec Lièvremont, instaurer des entretiens individuels avec les joueurs. C'est parti. C'est les trois mecs, par contre, qui les mènent, à savoir Bru, La Gisquet.
Séparément.
Et Lièvremont.
Séparément.
Voilà,
ils
prennent chacun un joueur pendant 15 minutes. Et non. Et pas de non-dit. La politique, c'est pas de non-dit pendant ça. Et du coup, le Goré, c'était son surnom à Saint-André quand il jouait. Dit, bah, pour l'instant, tout se passe bien.
Ouais, bah.
J'ai vu 2 joueurs.
Tout se passe bien, je suis invaincu. C'est aussi l'enjeu, peut-être, du truc.
Ça, c'est comme en septembre, dans n'importe quel sport, quand tu remets une équipe en route. C'est magnifique, c'est tout beau. C'est la meilleure équipe que les gens n'ont jamais eue. T'as pas de concurrence, tant que ça joue pas, tout le monde il est content. Hein.
Bah c'est bien ce qu'il dit pour l'instant, tout se passe bien. Je suis invaincu, donc il attend. Il attend la première sortie.
On peut pas nier que contrairement aux habitudes de la fédération, les gens qui sont mis en place ont des compétences avérées, une expérience complémentaire. Et moi ça me laisse espérer de belles choses.
Ah, il y a un petit message pour Raoul. Alors je pense.
Comment ça? Il y a des gens qui nous écoutent?
Ah, je pense que c'est Imanolette. Il était titulaire, Imanol, au dernier match. Il a joué 81 minutes. C'est parce que j'étais nul aux 1500 mètres avec toi au collège que tu dois critiquer mon mec.
Je confirme, c'est elle.
Voilà. Bon, bah, allez, on close cette page rugby, musique, et puis on se retrouve après pour parler, bien évidemment, de handball. I've got a woman with a plenty of money. Money and I got done it. I called my baby late last night. She told me, Daddy, everything was all right. I don't have to worry 'cause she's real fine. I know my baby, she's all mine. Cadillac, a diamond ring. She told me, Daddy, don't you worry about a thing.
is all mine and I'm so glad. She's the best woman I ever had.
C'est quoi?
Black Attitude, Lil Miette en Iskrill.
Allez, vous nous le réclamez avec cri et...
corps, au pied.
Oh, je sais pas, bon, on verra.
Je présente Raoul Pitambois, ton ascendant cochon.
En fait, je sais pas quoi vous dire.
Raoul Pitambois ne tourne pas autour du pont.
C'est fermé, truc.
C'est que moi aussi, je suis féru d'astrologie. Vous allez regarder.
Vous guérissant.
Ouais, j'ai le chapeau pointu.
Ça va bien.
Eh ben Raoul Pitambois, c'est à toi. Les auditeurs te réclament. Tu as ta minute. Ou plus.
Ma minute. Ouais, c'est vrai qu'à mon âge, ça dure pas plus longtemps. Justement, c'est un peu de ça que je voulais vous entretenir. Oui, désolé ma chérie, je fais ce que je peux. C'est de ça que je voulais vous entretenir, c'était du désamour pour nos chers sportifs ou au contraire du faux amour qu'on cultive pour eux. À l'heure actuelle, un sport, il est apprécié en fonction de sa couverture médiatique. Quand bien même les matchs ne sont pas de qualité, etc., si on vous le rabâche, si on vous martèle des images de ce sport-là, il est forcément le plus beau, le meilleur. On a été sous le joug du foot pendant X années, on y est encore en plein, et on entend à longueur d'émission, à longueur de retransmission, sur des chaînes qui sont maintenant thématiques et ne parlent que de ça également, on entend, c'est magnifique, le championnat est superbe, quelle action, quelle classe, le grand match, le choc, alors il y a le classico du derbisco, du biscotti, je sais pas quoi, enfin chaque match est un événement, un sommet. On nous vend quand même des sommets de le dimanche soir qui sont, je sais pas moi, allez, un petit Valenciennes-Nancy, par exemple.
Comme le sommet
du week-end.
Comme me disait Tanguy.
Voilà. Donc c'est le sommet.
Le niveau
Tanguy.
Du football français augmente. Voilà. Deux tirs cadrés.
Voilà. Donc la performance ne se juge plus du tout à la qualité technique, voire même au volume physique, parce que des bons bourrins pourraient nous faire rigoler un petit peu, ou régaler, pardon, je veux dire régaler, s'ils étaient capables de parcourir le terrain 150 fois dans un sens, 150 fois dans l'autre à fond la caisse, ça pourrait nous occuper. Non, elle se mesure uniquement au taux d'audience. Et là, on a de nouveaux amis qui sont en train de découvrir ce bonheur-là, on va revenir sur eux un peu plus longuement tout à l'heure. Les handballeurs. Voilà. Le handball, suite à sa superbe série de compétitions internationales, il aura quand même fallu 8 ans pour que leur championnat soit retransmis. Je parle pas sur une chaîne publique, je parle sur une chaîne cryptée.
Canal Plus.
Voilà. Mais retransmis avec deux matchs par journée, je crois.
Ouais, c'est deux matchs par journée, c'est 1,5 million sur 3 ans.
Voilà.
Et ils sont super contents, alors que c'est ridicule quand on a l'équipe nationale qui a gagné le plus de titres.
Et du coup, ouais, mais du coup, maintenant, quand tu prends les chaînes thématiques de sport et d'information, on te présente deux jours avant la journée, le choc, un suivi. Donc maintenant, le sport est devenu un sport, le hand est devenu un sport incontournable en France, en tout cas sur son poids médiatique. Ils vont faire les frais de ce changement de traitement en ayant fait leur première contre-performance. On va forcément les traiter de nantis et de gavés. Vous n'allez pas vous priver pour le faire tout à l'heure. Voilà.
Non.
Alors bien entendu, les autres sports n'ont aucun intérêt puisqu'ils ne sont pas retransmis, puisqu'ils ne sont pas médiatisés. C'est bien connu. Le rugby a sa petite part de gloire depuis 5-6 ans maintenant. Pourvu que ça dure. Parce qu'on se fait quand même grandement chier à regarder les trois quarts des matchs maintenant.
Ah, donc, mais les trois quarts des gens qui regardent, ils connaissent rien en rugby, donc ils sont pas chier.
Ah bah, ça va devenir comme la Formule 1. Pour faire la sieste le samedi après-midi, ça, c'est nickel. Demande à Gonzalo.
Hein. Bien
et les gens qui s'y connaissent, ils regardent pas. Hein.
Voilà. Mais... Donc la performance, c'est le taux d'audience et pas la performance réelle, athlétique ou même esthétique, hein, on peut voir ça. Donc moi, je voulais saluer quand même des sports majeurs qui sont retransmis en grand, en large, en long, en travers.
Le curling.
Le curling.
Ça, c'est bon.
Le snooker.
Ça, c'est très bon.
D'accord.
Ah, la fléchette.
Les fléchettes.
Les fléchettes.
Moi, j'aime bien la pétanque.
La pétanque, mais c'est saisonnier, pétanque, tu vois, télé, ça n'existe super. Que par saison.
Le soir vers 2-3 heures du matin.
Et puis surtout les championnats de force celte ou canadienne.
Ou teutonne.
Ou teutonne, voilà, parce que ça nous manquerait. Mais sans oublier, parce qu'il ne faut pas faire injure à des vrais sportifs de haut niveau quand même.
Le vrai
les rois du tractor pooling, des courses de motograsse. Et puis le top du top, parce que c'est quand même le plus grand sport au monde actuellement, il faut le savoir.
Le baby
wrestling. Le wrestling. Le catch, bien sûr. Ce grand sport.
Oh, ça y est, je crois que c'est en perte là.
Ah non, avec non. Ah, dans les cours d'école, mon coco.
Ah bon,
tu
ouais, mais, ouais, ouais, mais,
avec The Undertaker.
Il y a 2-3 ans, mais.
C'est clair. 2500 personnes tous les ans à la salle Omnisport.
C'est, oui, voilà.
C'est un business incroyable.
C'est un gros business.
Voilà. Donc, moi, je suis. Je me rends compte que je suis vraiment dépassé, que je suis vraiment un vieux con. Et que je vais peut-être jeter ma télé par la fenêtre.
Je sais pas si t'es vieux, mais par contre.
Qu'est-ce que je suis con. Mais en tout cas, j'arrive pas à reconnaître dans ces pratiques télévisuelles ce qu'est le sport et ce pourquoi ça m'intéresse. Donc j'espère qu'un jour, des fédérations auront suffisamment de testicules ou des bourses bien remplies pour pouvoir faire comme a fait le water polo, c'est-à-dire acheter des retransmissions. Le water polo, depuis un an et demi, a 2 matchs par semaine de retransmis, plus 4 retransmissions en différé ou rediffusion.
Sur quelle chaîne ?
Sur Sport Plus.
Ah ouais.
Et oui, mais bon, on en est là.
En même temps que chasse, pêche et tradition.
Non, sur des horaires.
Nature sauvage, là, je sais plus comment
Un peu comme le rap, j'ai décalé. Non, ça, il n'y a que toi qui regarde ça.
Tu fais cuire tes pâtes à l'ail.
Non, mais un peu décalé en semaine.
C'est pas comme pire que les clips sur M6, hein, où c'est pareil, hein, on diffuse 36 fois les mêmes clips, les mêmes chanteurs tout le temps. Ouais. C'est pas comme le sport, c'est du conditionnement. En fait, c'est le système publicitaire où, à force de rabâcher toujours les mêmes spots, les gens finissent par acheter parce qu'ils connaissent inconsciemment, ils prennent ce qu'ils connaissent. C'est exactement pareil pour le sport, c'est exactement pareil pour la musique. Ça, c'est le même principe, c'est du conditionnement, tout simplement.
Et le conditionnement peut anéantir un sport également. On a quelqu'un qui a un joli survêtement rouge à côté de nous.
C'est qui ?
Il connaît assez bien un sport qui a été mis à l'antenne en marche forcée il y a 2 ans sur son tour de meetings nationaux et qui est déjà sorti des radars.
Moi je comprends rien du tout à ce que vous dites. Vous parlez de
On parle du circuit alors qui s'appelait Areva Athlé Tour à un moment donné.
Ouais, quelque chose comme ça.
Qui était le circuit des meetings nationaux en athlétisme. On parle des meilleurs athlètes français avec quelques invités étrangers. Qui a été bien diffusé par Canal à un moment donné, il y a eu une belle manne financière, et puis ça a été complètement abandonné. Et du coup, ces athlètes de niveau national, on le répète, les meilleurs français, ça cause quand même, sont repassés dans l'oubli, et ils étaient en voie de professionnalisation grâce à cet outil. C'est en train de tomber, la Ligue nationale, elle est moribonde déjà, on peut le dire.
Ouais. Et puis bon, il y a eu le coup aussi du Lagardère Tour, qui a essayé, lui, de créer son circuit, qui a essayé de mettre en place avec énormément d'argent.
C'est le même.
Ouais, voilà, c'est la même chose. Bah oui, mais à un moment donné, derrière, il y a...
Non, mais Lagardère, tu peux en parler facilement ici, on le connaît très bien, c'est un ami, il est venu plusieurs fois.
Moi, je me doute.
Surtout sa copine. Arnaud est quand même le grand mécène du sport français.
Oui.
D'accord. Il a quand même fait rêver toute la planète grâce à nos champions pendant à peu près 2 mois.
Champion de
avant
tennis,
de niquer tout le monde. Et d'arrêter tout. Voilà. Donc Arnaud, on le remercie parce qu'il a vraiment grandi, fait grandir le
sport. Je croyais que tu parlais de Jean Marais.
Allez, merci Raoul, musique, et puis on se retrouvera après pour parler justement de ces handballeurs.
Surely die. Hey, Mona, surely die. Eh ben oui, c'était quoi ? Yo-Yo Man.
Hein ?
Hein ? Yo-Yo Man, son premier instrument. On l'a réveillé.
Guitare carrée. Body de lait.
Body de lait.
Eh ben, merci bien, messieurs. C'était sympa, ça a changé de ce qu'on passe habituellement ici. Eh ben oui, on va parler de malheureusement la chute des handballeurs.
Prévisible.
Oh, la chute. Exagérée, ils ont perdu. Ils ont
attends, il y a un devin à la table. Prévisible. J'ai entendu prévisible.
Ouais. Ah ouais. Bah quand tu gagnes tout le temps, au bout d'un moment, c'est normal.
Ça, tu parles de, c'est de la logique.
Ça, c'est oui.
Ouais. Mais c'est d'accord. La logique où, en plus, quand je dis prévisible, les journalistes attendaient que ça.
C'est faux. C'est faux.
Donc,
c'est faux.
Les journalistes font le résultat. Et la performance, on en revient à la chronique.
T'as déjà des journalistes qui avaient dit avant même la compétition que les Français, ils la gagneront pas celle-là. C'était pas possible.
T'as vu ça dans quoi? Enfin où? Parce que enfin.
Parce que moi, je lis que la Bible. Hein, c'était pas écrit dedans.
Ah, non, putain, non, franchement.
Aussi. Non.
Non, mais la vraie.
On avait travaillé ça. Bon, après, j'avais lu ça. Certains journalistes de l'équipe, et j'avais lu ça sur l'équipe sur Internet, prédisaient déjà, avant même le début du championnat d'Europe, que la France, d'une part, avait un essoufflement, qu'à un moment donné, c'est clair et net qu'elle allait perdre. Alors, je suis pas là en train d'accuser, bien évidemment, les joueurs, hein, mais que, voilà, on allait arriver un jour ou l'autre, et que ça allait venir là sur le championnat d'Europe, d'une part. Parce que c'était mal situé par rapport à la préparation des JO, parce qu'il y avait peut-être un manque de motivation, je sais pas, un ensemble de choses.
Déjà, on peut se demander ce que fout cette compétition-là entre un championnat du monde et des JO. Mais après, il y a des compétitions tous les ans.
C'est tout le temps comme ça, Howard.
Non, mais moi, si tu veux qu'on dise qu'une série de victoires va s'arrêter, oui, en effet, on parle de mathématiques, c'est inéluctable.
Chaque jour, c'est plus proche.
Par contre, pouvoir annoncer à l'avance qu'ils allaient se planter sur cette compète-là, je vois pas sur quel signe. Ils pouvaient l'annoncer puisque les joueurs ne s'étaient pas réunis avant. Alors oui, si c'est après les 4 matchs amicaux qu'ils ont disputés.
Paris qui était pas terrible.
D'accord.
Même après les 2 premiers matchs, on s'est rendu compte, on en avait discuté au Gonzalo.
Je pense que personne
qu'on les sentait pas tranchant.
Je pense que personne ne pouvait prévoir que leur bilan à l'issue de la compétition serait 2 victoires, 1 nul, 3 défaites.
Ah, là-dessus, je suis d'accord, mais ça a été, il y a des journalistes qui se sont amusés à faire les.
On laisse la question des journalistes. Parlons tout de suite de la production. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Yo-Yo Man.
Oui, comme je le disais, on en avait discuté à l'issue du match contre la Russie. Ils avaient gagné, mais on se disait, on ne les sent pas tranchants, on ne les sent pas incisifs.
Défensivement, moins d'engagement.
Moins d'engagement défense.
On sentait bien que ça n'allait pas aller bien loin.
J'ai trouvé moins de solutions en attaque, offensivement, moins de dynamisme.
Moi, j'aimerais bien avoir des avis de spécialistes parce que j'avoue que c'est un sport auquel j'ai jamais compris grand chose. Pour moi, c'est des gros bœufs qui se rentrent dedans.
On parle
d'engagement défensif. Quand on voit la permissivité des règles au handball, qui est bien plus étendue qu'au rugby maintenant.
Oui,
on parle de gros bœufs qui se rentrent dedans.
C'était bien pire avant.
Et discuter avec n'importe quel handballeur, il vous dira qu'un match se détermine dans les 10 premières minutes au handball, les 10 premières minutes de carence arbitrale.
Oui, on met juste des cartons.
Tu peux tuer qui tu veux. C'est leur mot, hein.
Ouais.
Tu peux tuer qui tu veux dans ces 10 premières minutes-là. Si t'as marqué ton adversaire, t'as gagné le match et l'arbitrage. Enfin, l'arbitrage et par conséquence le match. Bon, j'y connais rien. Pour moi, par contre, j'ai vu quand même des systèmes de défense différents chez les Français de ceux employés depuis 3 ans.
Trop.
Qui ont été un fiasco total parce qu'ils correspondent pas aux qualités de nos joueurs, visiblement.
Joueurs actuels.
Oui, dans leur état actuel. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire pour gagner Londres.
Joueurs avancés, Narcisse avancé, ça n'a pas fonctionné.
Mais si avec Narcisse avancé, on a fait une 3-2-1 étagée jusqu'à 12 mètres. On a vu Dinard sortir à 10 mètres. Il n'a jamais fait ça de sa vie.
Anti, il a pleuré tout le tournoi.
Je pense pas que ce soit la défense le problème. Hein. C'est en attaque.
Attends.
Surtout l'attaque.
Je pense que
Karabatic n'était pas transcendant.
Brandon a un avis. Sur l'état de forme des Français, sur le fait que tout le monde soit revenu en championnat de France.
Ouais, on en parlait l'autre jour. Je disais, avant, ils jouaient dans les grands championnats européens.
N'importe quoi.
Laisse-moi finir. Ils jouaient dans les grands clubs européens, Kiel, etc., Barcelone, où ils ont 2-7. Ils ne jouaient que 2 fois 30 minutes. Ils jouaient 30 minutes.
Laisse-le
parler.
C'est qui?
Les Karabatic, les Fernandez.
Top. Tu t'arrêtes là. Deux joueurs.
C'est quand même deux joueurs majeurs. Karabatic, on l'a trouvé bien en dessous de
deux joueurs.
Et maintenant il
sur
joue
54.
Il joue 55
Narcisse,
minutes.
Mais on a réintégré. On a réintégré Narcisse quoi Narcisse.
Oui, il est
qu'il est fatigué.
On a réintégré Narcisse. On a réintégré Guillaume Gilles sur lequel tout le monde pleurait.
Bah Guillaume
lors
Gilles,
de la dernière
il a pas joué.
Guillaume Gilles, il a été puni. Donc je sais pas pour qui, pourquoi. Après là, on va venir au management d'Onesta.
Oui, il a mais pas a, joué. Son frère a joué, mais pas lui.
Mais il y a quand même des joueurs comme ça qui étaient des. Où on va prendre Karabatic qui a été élu meilleur joueur. Après, moi, je me. Il jouait une demi-heure avant. Dans son club, là il joue 55 minutes avec Montpellier.
Il était donc pété physiquement... surtout, il était pété.
Non, non, mais attends, attends. Il jouait 30 minutes dans son club à Kiel.
Peut-être un peu plus, mais il jouait pas les matchs en entier. Non, il jouait pas non. que des matchs
non,
complets.
C'était une machine. C'était une machine. Il jouait tout. Il jouait tout à Kiel. Deuxième chose, ça fait deux ans qu'il est rentré en France.
Ça fait deux ans. On est
donc
aussi...
moi, ton argument il est bidon pour moi. Ouais, ça concerne que Fernandez, qui est en pré-retraite, qui attend le poste d'Onesta.
Ouais, qui est redescendu d'un cran quelque part.
Oui.
En termes de jeu.
Ah bah, ou tous, où il y a quelques joueurs qui ont fait les sénateurs.
Je pense que
il y a des joueurs qui ont fait les sénateurs.
Je pense que de parler de Karabatic, c'est important. Vous avez évoqué Dinar aussi. Moi, j'ai un tout petit peu pratiqué le handball. Et je me rappelle.
T'en es NSS ?
Équipe de l'heure, les mecs.
Sixième.
Et les mecs, équipe de l'heure.
C'est-à-dire, t'avais ta taille à 14 ans, c'est
comme
ça
gardien.
En KD, deuxième année, du coup.
En KD, ils ont retiré le rigole. En KD, souffle, tu t'envoles.
Ils ont retiré
mon maillot. Ils ont le poteau.
Ils ont retiré mon maillot au gymnase Jean Jaurès à Évreux, pour ceux qui connaissent. Numéro 11. Non, très sérieusement.
Je suis jamais en plus dans celui-là,
très sérieusement. Dinar, c'est bizarre parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amour propre. On ne peut pas lui enlever le fait que c'est peut-être dans l'histoire du handball moderne, dans ces 15-20 dernières années, le plus grand défenseur.
Oui.
Le truc, c'est qu'à un moment donné, le sportif ou tout homme bien fait va à un moment donné se dire qu'il doit arrêter de lui-même. Et il a du mal à se. Je vais finir. Il a du mal à se le dire forcément. Et je pense que ce mec-là, il se posait déjà la question dans les deux derniers grands championnats.
Tu rigoles, toi ?
Il voulait, alors, il était, il a déjà évoqué que ça pourrait être ses dernières rencontres.
Alors, c'est au sélectionneur de le dire. C'est
ouais,
pas lui.
Oui, mais à un moment donné.
Pourquoi il se le dirait lui-même ?
Bah, parce que ça se trouve, moi, je suis pas persuadé que. Dinar, c'est quand même un dinosaure. Il était là avant que.
Mais Dinar,
Onesta
c'est pas du tout la défense. Ouais, voilà. Sauf qu'Onesta a pas construit un système défensif qui va avec l'équipe qu'il avait pendant ses championnats d'Europe. Tout simplement.
Je t'arrête tout de suite. Le système défensif, c'est Dinar qui le met en place.
Non.
Pas, ça fait 5 ans que
pas
c'est
sur
le cas.
Pas sur la défense étagée.
Ah bah, visiblement, c'est.
Moi, je pense que malgré tout le talent qu'il a, notre ami Dinar.
Il s'est mis en difficulté tout seul.
Enfin, voilà, il en perd de vitesse. Ça doit permettre. Ils ont d'ailleurs été pour l'ensemble très digne dans la défaite. Hein, ils ont. Ça, c'est pas. Et juste Karabatic. Comment gère-t-on, parce qu'en plus le mec, je pense pas qu'il ait trop le melon, comme on dit dans le milieu du sport. Comment gère-t-on le fait d'avoir dans son effectif, parce que c'est pas simple à gérer, le meilleur joueur de la planète au départ. Tu vois, comment le gère-t-on? Est-ce que justement il a les pleins pouvoirs? Est-ce que il participe aux phases offensives dans la création des mouvements? Est-ce qu'on lui donne pour obligation de donner, d'échanger, de partager ou autre, ou carte blanche? Bref. Alors, comment gère-t-on?
On va parler de l'existant et après on va parler de ce qui s'est passé ponctuellement. Parce que pour moi, c'est ponctuel le problème. L'existant, c'est un groupe qui est entraîné par Sylvain Nouet, managé par Claude Onesta, mais qui a un rôle, enfin, dans lequel certains cadres ont un vrai rôle participatif sur la définition des axes de jeu, sur ce genre de choses. Karabatic est un élément important du groupe, mais pas placé sur un piédestal. Il y a une vraie éthique interne. Il y a des cadres, Dinar en fait partie. Si un jeune, comme, entre guillemets, comme Karabatic se permet de trop l'ouvrir, il va se faire recadrer par ce genre de gars. Ça, c'est la situation d'avant. Avant cette compétition. C'est la situation qui les a amenés là où ils sont. Et une chose est sûre, ils ne veulent en aucun cas remettre en cause ce fonctionnement-là. Ils l'ont tous dit. En tout cas, le staff l'a dit. Et les cadres l'ont dit. Maintenant, en interne, il paraît que ça bouillonne un peu plus, mais ça, c'est autre chose.
Pour avoir discuté avec du handballeur, là, justement, dans la semaine, les gars me disaient les titres ont été conquis avec entre 30 à 35% de buts marqués sur action rapide, ce qui demande une énorme défense et un gardien au top mondial. La grosse défense n'était pas présente et le gardien a été moyen.
Moi, je pense. Non, mais attends,
c'est la fin d'un cycle pour moi.
Tu parlais de Dinar.
Au meilleur aussi.
Pour moi, le déclin s'est amorcé bien plus tôt sur un autre poste, celui de gardien.
C'était notifié sur mon petit papier.
Déjà sur le mondial.
Exactement.
Il était juste. Enfin, il a eu des brillances. Mais...
Et puis à un moment donné, dans le sport
d'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui y a derrière Karaboué au meilleur.
Bah, non, on ne dit pas derrière Karaboué, parce que Karaboué est juste derrière au meilleur, parce qu'il ne joue jamais, il accepte de ne jamais jouer. Mais le gardien de Chambéry est monstrueux.
C'est
simplement monstrueux.
D'accord.
Mais je pense que.
Du moins, je crois. C'est ça?
Possible, on va aller vérifier.
Juste une info, une remarque là-dessus. Je trouve que
vous êtes d'accord sur l'analyse des handballeurs 30% de buts sur l'action rapide.
Tu parles de défense, etc. Mais dans les actions rapides, il y a aussi les remises en jeu rapides et anticipées, ce qui était une spécialité à Balogigou. Moi, je voudrais juste rappeler qu'il manque le magicien de l'équipe de France, parce qu'il y en a un seul depuis 10 ans, c'est Michael Guigou. Il n'était pas là.
C'est vrai.
D'accord. Et en plus, c'était ces deux joueurs-là qui géraient nos situations d'infériorité numérique. Dans la mesure où on ne pouvait plus les avoir pour animer nos situations d'infériorité numérique, il fallait pas prendre de 2 minutes. Si tu veux pas prendre de 2 minutes, tu défends pas. C'est un cercle vicieux. Mais à côté de ça, en effet, il y a des contre-performances de joueurs majeurs.
Il amène la niaque, l'envie de gagner. Ah, il fait porter
il
ça aussi aux joueurs.
Il est précis,
ça
manque, il lit le jeu. C'est merveilleux.
C'est vrai que c'était un manque.
Autre question, moi j'ai une question. Est-ce que Narcisse et Karabatic peuvent cohabiter offensivement? Parce que moi j'ai trouvé qu'ils se sont marchés dessus tout l'Euro. Narcisse jouait mieux sans qu'il y ait Karabatic et Karabatic jouait mieux sans qu'il y ait Narcisse.
Tout le monde peut cohabiter en situation de réussite. C'est tout. Mais quand t'en as un qui n'est pas en situation de réussite, qui est capable de prendre 15 tirs dans un match pour en marquer 3 petitement, ou de prendre 8 tirs dans un match pour en marquer 0, ça a été leur cas aux deux, ils peuvent plus cohabiter. Parce qu'ils ont besoin de se faire valoir par leur talent majeur qui est le fait de scorer.
Et est-ce que tu ne penses pas que là-dedans, alors je ne sais pas, je peux me tromper, il y a l'importance du rôle de l'entraîneur quand tu as des talents comme ça, autant énormes. Alors d'accord, ok, là on perd, mais il y a peut-être aussi un boulot de l'entraîneur de pouvoir les utiliser à bon escient, les deux ensemble, et faire un bon taf ensemble.
Alors je crois que Honestel a quand même déjà essayé sur certains aspects de changer les choses, à savoir laisser Narcisse seul en attaque, et de faire rentrer Karabatic qu'en défense. Déjà, il a essayé d'amener.
Il a protégé Karabatic en faisant ça sur la deuxième moitié de compétition.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire qu'il a évité de l'exposer, et physiquement et moralement, parce qu'il était déjà très atteint, ça se voyait sur son visage.
Est-ce qu'il n'a pas explosé mentalement
Il n'a jamais été en situation d'échec.
Est-ce qu'il n'a pas explosé mentalement le Montpellierin, le nom m'échappe, il y a Barraché et l'autre, le jeune.
Ah, à Cambrai.
À Cambrai, il ne l'a pas explosé mentalement en début de compète?
Je ne pense pas. Non, je pense pas. Après,
il a pas.
À Cambrai, sait qu'il n'aura qu'un rôle mineur tant que les autres arrières seront là. Il attend son heure.
Je pense aussi, ouais, voilà.
D'accord.
Voilà.
Il faut des grands changements pour les JO ou on continue sur la même trame?
Non, c'est comme les rugbyman qui nous ont fait une énorme arnaque en allant en finale de Coupe du Monde en jouant comme des glinches. Il fallait une bonne préparation physique avec du temps pour le faire, du temps pour rebosser sur le projet de jeu. Espérer qu'il aura tous ses joueurs à disposition, qu'il les mettra un peu plus en concurrence dans la préparation. Pour que les cadres puissent se réveiller. Et puis, ça sera suffisant. Enfin, suffisant pour bien figurer. Après, les compétitions majeures, sur les 3 derniers tours, ça se joue à un but, ça se joue à 2 buts. Donc,
de toute façon,
tu peux finir quart de finale.
JO plus facile que l'Euro.
Ouais.
Je pense que par rapport à la moyenne d'âge. Je pense que par rapport à la moyenne d'âge et par rapport à la préparation physique qu'aura l'équipe de France, les JO vont être en avantage. Je pense que l'équipe est quand même vieillissante en soi et que le format avec les matchs comme ça. Ça leur convient pas, c'est certain quoi. Bon, ils ont moins de récup,
après,
et c'est dur.
Il y a eu un rappel très juste de la part d'Onesta quand même. Je redéfinis ce qu'est le handball. Je dis que c'est des gros bourrins qui se rentraient dedans, machin. Ouais, c'est le deuxième sport de combat collectif après le rugby. C'est comme ça que c'est défini.
Ouais.
Il y avait quel enjeu pour les Français à part la gloire supplémentaire? Il y avait rien de vital. Alors que toutes les autres équipes, j'ai bien dit,
jouaient leur qualif au JO.
Et puis toutes les autres équipes aussi ont maintenant envie de battre la France aussi.
Mais oui, non mais attends, une qualif au JO, c'est la compétition suprême et c'est extrêmement rémunérateur.
Yo, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je suis pas un spécialiste.
Moi, je veux simplement rajouter.
Mais bon, 5, moi, j'ai vu des matchs pas terribles en fait de l'équipe de France tout simplement.
Et ce que disait Kevin à juste titre, le problème des compétitions, des matchs qui s'enchaînent. Bernard Sall, on en avait parlé la dernière fois que j'ai vu, ça c'est un énorme problème. Et il voudrait rajouter une valorisation, la Ligue nationale de hand voudrait rajouter une valorisation sur les joueurs comme Karabatic en mettant peut-être des idées de All-Star Game ou des choses comme ça. Donc là on se pose la question, dans ces cas-là, vas-y, on continue les compétitions et ça va péter.
24 ans seulement.
Seulement ? Alors oui, c'est difficile de dire qu'il est vieillissant quand même.
Allez. Non, mais il était cassé deux fois là depuis.
Il était cassé deux fois depuis. De toute façon, il n'avait pas la.
Bernard Sall, c'est un marchand maintenant. Hein.
Allez, on close malheureusement déjà ce qu'a fait les sports. Il me reste à vous saluer, à vous dire à mardi prochain. Pour le Café des Sports.
Je serai pas là, il y a grève.
Mais aussi à vendredi prochain de 18h30 à 19h30 pour non, dans 15 jours, pardon, pour un spécial à l'occasion de l'abordage part en live. Le principe actif part en live à l'abordage. Je vous dis, Monsieur Yo-Yo-Man.
Ouais.
Je vous dis au revoir.
Carton,
au revoir.
Allez, bonne soirée.
Au revoir, Raoul.
Salut, patron.
Salut, Gonzalo.
Ça va, ça va.
Salut, Amienski.
Bye bye.
Merci, Florian, de ta visite.
Salut,
et puis,
super.
Les portes du café et des sports sont ouvertes.
Ça a été du pur plaisir.
Et donc, comme toutes les semaines, on se retrouvera après à suivre. Tout de suite après, il y aura Jazz à part en direct aussi sur HDR. Et puis, sinon, il y aura en suivant l'Octroi Acoustic Club. Et on se retrouvera demain pour suivre.
Jazz à part, c'est nouveau ça.
Hop, et on se retrouvera demain en direct pour ceux qui viendront voir El Señor Watu à l'abordage. Et c'est tout. Au revoir.